Gare aux gigabassines et aux tunnels inutiles. La 7e émission dans la série « Quand la Terre se soulève » réalisée par Radio Nanzine. Nous voilà de retour à l'interlude des soulèvements de la Terre qui a eu lieu en Bretagne fin février, donc 2024. Comme chaque interlude, il s'agissait de faire le bilan des actions qui ont été menées pendant les derniers 6 mois et de définir, d'imaginer les actions qui allaient être menées dans le cadre de la saison 7, qui est donc entre en gros mars et septembre 2024. Dans notre dernière émission, nous avons présenté 4 mobilisations qui sont prévues donc dans cette période. C'était d'une part une grande action contre la méga infrastructure logistique qui est prévue sur les berges de la Seine, qui s'appelle Green Dock et qui est liée à des autoroutes, à même un canal qui s'appelle le canal Seine Nord Europe. Ensuite, nous avons parlé de l'actualité, la lutte qui continue contre le projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Et enfin, des amis italiens ont évoqué 2 mobilisations à Venise contre les énormes bateaux de croisière et ensuite une lutte contre un projet de bobsleigh à Cortina dans les Alpes italiennes dans le cadre des Jeux Olympiques 2026. Dans cette émission maintenant, nous allons évoquer les 3 autres grandes mobilisations prévues donc dans la saison 7 des soulèvements de terre. Commençons avec la lutte contre des gigabassines donc dans la région de Clermont-Ferrand. Bonjour, on est donc à l'interlude et moi j'ai souvent entendu parler des mégabassines, mais là on découvre les gigabassines. Donc vous venez de Puy-de-Dôme, c'est ça? Donc je vous laisse présenter un peu pourquoi vous êtes venu et peut-être quel collectif ou je sais pas quoi. Qui est-ce qui vous a commencé?
Bonjour, du coup on est le collectif BNM63 et on est là pour présenter 2 gigabassines. Parce que du coup, nous, on a renommé les mégabassines en gigabassines, parce qu'on a un projet de 2 mégabassines qui représentent un volume de plus de 2 millions de mètres cubes, donc l'équivalent de plus de 3 fois Sainte-Soline. Et du coup, on est là parce que on veut pas que ce projet voit le jour et du coup on espère l'annulation de ce projet et on est venu aux interludes pour présenter un événement qui va avoir lieu en mai.
Faut juste rappeler parce que dans les milieux des soulèvements de la terre, BNM c'est devenu connu, c'est donc Bassine Non Merci, c'est le nom qui a été donné puis dans le Poitou, Charente et tout ça. Mais pour comprendre un peu plus ce projet, sans doute, c'est quand même lié au modèle que vous avez chez vous, mais le modèle agriculture industrielle. Donc, en fait, qui est-ce qui veut faire ce projet de gigabassine? Et c'est un peu pour quel secteur agricole ou quelle production, quoi?
Chez nous, c'est Limagrain, donc multinationale bien de chez nous, qui porte ce projet-là. Alors, plus ou moins directement, c'est un groupe d'agriculteurs qui est affilié à Limagrain, pour être exact, qui porte ce projet. Bon, ils ont tout un tas d'arguments comme quoi ça va servir des petites exploitations locales. Mais en fait, la vérité, c'est que ça sert uniquement la filière maïs, notamment le maïs semence, qui est destiné à l'export. Donc voilà, c'est aussi au-delà des mégabassines en tant que telles, c'est tout ce modèle-là contre lequel on lutte.
C'est du coup du maïs semence qui est destiné à plus de 80% à l'export et pour de l'élevage. Et l'ASL qui porte, donc l'association de syndicats libres qui porte le projet, est composée de 36 agriculteurs, 36 exploitants sur un total de à peu près 6000 exploitants dans le Puy-de-Dôme, quoi. Donc le projet va bénéficier seulement 36 exploitations.
Donc en fait, les autres agriculteurs autour qui pourraient avoir besoin d'eau, ils n'ont pas droit ou est-ce qu'ils peuvent entrer dans le projet ?
Non, le projet il est fait pour ce modèle-là et en gros les agriculteurs tristes autour verront juste que eux ils peuvent pas avoir d'eau pendant les arrêtés sécheresse puisque dans la plaine de la Limagne, on a des grosses canicules et on a des chaleurs qui montent assez haut, plus de 40 degrés sur notre secteur. Quoi.
Et l'eau, si j'ai bien compris, c'est pas comme les mégabassines dans les Deux-Sèvres et ailleurs où c'est pompé dans la nappe phréatique. Là, c'est autrement.
Nous, dans notre cas, en fait, c'est l'eau de l'Allier, donc c'est la rivière nous qui passe dans le département à côté de Clermont-Ferrand, dans laquelle l'eau va être pompée pour remplir les mégabassines.
Et est-ce que ça existe, j'imagine, des études, enfin, quel impact ça va avoir sur cette rivière, enfin l'Allier, parce qu'il y a vraiment des études extrêmement intéressantes, par exemple, dans les Deux-Sèvres, sur les effets très négatifs de... Mais là, c'est les nappes phréatiques, donc... Mais quel impact ça va avoir, d'enlever toute cette eau-là de l'Allier?
Déjà, il faut savoir que le débit de l'Allier a baissé de 30% en 40 ans. Et du coup, il pourrait encore diminuer de 30% d'ici 2050, d'après plusieurs modèles hydroclimatiques. Et là, on a la recharge hivernale des nappes et de plus en plus limitée. Elle pourrait diminuer de 20 à 30% d'ici 2070 dans le bassin versant de l'Allier. Donc d'après des études Explorer... 2070, etc. Et là, on a fait le calcul que par rapport au modèle présenté dans ce projet, les hivers 2022 et 2023, si le projet existait, de ces deux mégabassines de plus de 2,3 millions de mètres cubes, elles seraient remplies seulement à 44%. Donc au final, on se rend compte que le projet n'est même pas viable par rapport à leur attente à eux.
Comment réagit finalement localement, je veux dire, les agriculteurs qui ne vont pas avoir accès à cette eau, est-ce que c'est connu localement? Est-ce que c'est devenu un sujet? Il y a des protestations côté agriculteur?
Oui, bien sûr, parce que déjà, la première colère qu'il y a eu, c'est qu'en fait, ces mégabassines, en fait, elles servent à des grandes exploitations. Donc les petites exploitations qui existent autour n'ont même pas été contactées pour faire partie du projet. Donc déjà, en fait, rien que ça, nous, dans le collectif Bassine Non Merci, on a vu des personnes arriver et nous dire « Mais en fait, moi, on m'a même pas demandé si je voulais faire partie de ce projet-là. » Donc en fait, on voit bien que vous demandiez « Est-ce que ces personnes-là pourront avoir accès à l'eau ?» Admettons, peut-être que oui, mais en fait, la question, c'est plutôt pourquoi est-ce qu'en fait, ces personnes-là ne sont pas consultées et en fait, ça sera pas, c'est pas pour elles, quoi, que vont être faites ces mégabassines. Donc, ces personnes-là, nous, on commençait à nous contacter à BNM et après, dans la mesure où c'est leurs voisins, c'est leurs collègues, en fait, ces agriculteurs et agricultrices, ont plus ou moins de facilité, en fait, à montrer leur opposition aux mégabassines. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a entendu déjà la colère, en fait, et la frustration de ces personnes-là de ne pas être inclus, de ne même pas être concertées pour en faire partie.
Vous avez commencé à quel moment à vraiment vous rendre compte de ce projet et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place, je veux dire, pour informer les populations autour ou comment ça s'est passé en fait?
Au début, ça a été un peu des bruits de couloir dans le milieu militant qu'il y avait une réunion qui aurait lieu sur la Comcom. Et du coup, il y a un groupe d'une quarantaine, cinquantaine de personnes qui s'est déplacé. Donc bien sûr, on n'était pas invités, etc. On a demandé à pouvoir rentrer dans la salle pour avoir les informations. L'accès nous a été refusé, mais le groupe est quand même resté tout le long de la réunion et on a pris des photos par les fenêtres pour avoir les premières informations sur ce projet. Et puis à partir de là, une forte mobilisation a eu lieu pour essayer de trouver des infos, de trouver des personnes qui pourraient nous partager voilà, des informations supplémentaires.
Vous avez fait, je crois, pas mal de réunions publiques, finalement. C'est tout un bassin qui est concerné, j'imagine.
Ça fait un an que plein de personnes habitants du territoire, militants de plein d'associations environnementales, écologistes, se sont réunis sur ce sujet. Et le collectif BNLM a vu le jour. Et donc depuis ce jour-là, on fait plein de plénières, de réunions publiques, et beaucoup, on sent que la question est très importante pour les habitants et les habitantes du territoire, parce que les gens se déplacent en masse quand même, juste pour des réunions. Et donc là, on a eu l'occasion de faire des réunions publiques pour informer du projet et dire juste les informations qu'on avait en notre possession. Et après, on a eu l'occasion aussi de faire des tables rondes avec des techniciens, des techniciennes du réseau. On a fait des projections de films comme « L'eau jaillit le feu ». On a fait du collage, des tags dans les grandes périphéries de Clermont-Ferrand sur les grands axes routiers qui permettent de relier du coup à toutes ces communes-là. Et donc voilà, il y a eu plein de formats, beaucoup de tractages sur les différents marchés des communes impactées. Et c'est pour ça que là, on en arrive là et on arrive aux interludes pour présenter un projet un peu plus ambitieux pour réunir plus de personnes.
Et pour le timing, je veux dire, est-ce que vous savez quand est-ce qu'ils prévoient de commencer le chantier? Vous avez encore un peu de temps ou c'est comment?
Alors, les questions de calendrier sont assez floues parce que, en fait, bien sûr, ils ne nous communiquent pas ces informations, donc c'est à nous d'aller investiguer. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on avait quand même l'information que les travaux devaient commencer fin 2024. Or, en fait, le projet est constitué de deux mégabassines, et ça, c'est un seul et même projet. Donc, en fait, si les deux bassines ne se font pas, le projet ne marche pas. Et en l'occurrence, une des deux mégabassines a été annulée, parce que le terrain sur lequel elle devait se construire, en fait, n'est pas viable pour accueillir de telles charges, puisque c'était une zone humide qui a été asséchée. Voilà l'ironie du projet. Et donc, ça, c'est notre chance, en fait. C'est comme, du coup, une des deux bassines n'a plus lieu. Ils sont en recherche de terrain pour en faire une seconde, et tant qu'ils n'ont pas ce second terrain, ils ne peuvent pas commencer la construction du projet. Donc ce chantier qui avait été plus ou moins annoncé pour fin 2024, en fait, est reporté à plus un an, deux ans. Là, pour le coup, on ne sait pas, en sachant qu'il n'y a toujours pas eu l'enquête publique, que du coup, s'il y a un nouveau terrain, il y a l'enquête 4 saisons sur un an qui devrait avoir lieu. Ça, c'est dans la manière dont les processus se font actuellement, mais on sait aussi que tous les procédés de construction de mégabassines sont en train d'être accélérés. Voilà, on sait que ça nous a laissé plus de temps, mais on sait aussi que les processus peuvent s'accélérer et que les procédures peuvent être simplifiées pour que ça aille plus vite. Donc on reste sur nos gardes.
Oui, parce qu'on a un peu l'impression qu'il y a une volonté d'accélérer, parce qu'il y a l'opposition qui grandit un peu partout, et il y a même des procès, enfin des 15 mégabassines qui ont été stoppées, dans la Vienne, je crois, ou je sais pas où, mais en tout cas, donc, il y a sorte de volonté de faire des faits accomplis, je pense, non?
Bah, c'est surtout que on a bon espoir de pouvoir mobiliser beaucoup de gens avant que les projets soient actés. C'est vraiment notre ambition au niveau national, mais aussi du coup au niveau local. Parce que comme il y a du coup une recherche d'un nouveau terrain, on pense qu'il est stratégiquement important de mobiliser encore plus les habitants pour que du coup les maires soient plus en porte-à-faux, pour que la lumière sur leur commune ait lieu s'ils acceptent que l'implantation de la seconde mégabassine de 18 hectares ait lieu chez eux, quoi.
Peut-être on peut venir à l'action, à la mobilisation que vous voulez organiser avec le soutien, enfin dans le cadre des soulèvements de terre, la saison 7 qui démarre là après cet interlude. Et si j'ai bien compris, c'est un méga, mais c'est plutôt sympathique, un méga balade ou randonnée naturaliste, hein, c'est ça? Qui est-ce qui voudrait raconter ça?
Oui, du coup, voilà, on a eu l'idée de faire cette rando, une grosse rando naturaliste pour sensibiliser les habitants, parce que bon, malgré tout le travail qu'on a déjà amorcé, il y a encore beaucoup de monde qui est pas au courant de ce projet-là et des enjeux de préservation qu'il y a sur ce territoire-là. Donc voilà, là l'idée c'était de faire quelque chose d'assez familial et fédérateur, un peu festif pour faire connaître tous ces enjeux liés à l'eau et à la préservation du milieu naturel.
Et là c'est prévu pour quand?
Alors, pour l'instant, la date qui est fixée, ce serait le 11 mai.
Cette journée, on la veut vraiment festive, familiale. Notre but, c'est vraiment de mobiliser en masse, mais de manière même artistique. L'idée, c'est vraiment d'avoir une mobilisation d'ampleur, mais dans un ton léger aussi, pour pouvoir même pouvoir parler de nature, se reconnecter du coup à nos paysages, les mettre en valeur. Et dans notre propos, il y a vraiment restaurer ces milieux naturels. Et donc là, sur cet événement, c'est un peu l'enjeu aussi pour nous de montrer notre paysage qui est assez riche aussi lié à sa situation géographique. Avec le parc naturel des volcans d'Auvergne à l'ouest, cette plaine de la Limagne avec la faille de la Limagne. Après, du coup, il y a le parc naturel du Livradois-Forez. Donc, il y a une grande richesse de notre territoire. Et on aimerait vraiment préserver cette nature, quoi.
J'ai quand même encore une dernière question. L'Imagrin, c'est quand même une très, très grosse boîte qui a des activités dans plein de domaines. Moi, je connais un tout petit peu les questions semences. Où on fait partie des grands semenciers qui voudraient capter vraiment le marché et tout ça. Donc, je pense que c'est peut-être pas le seul domaine où il y a des dégâts ou des problèmes avec une telle entreprise. Est-ce que ça fait partie de votre action d'essayer de mieux comprendre la réalité de cette entreprise?
Oui, dans le sens que l'Imagrin, c'est vraiment un exemple de ce modèle agro-industriel. Et les méga-bassines, elles ont ce projet, il a lieu parce qu'il y a l'Imagrin et parce que ce modèle industriel il est en place, parce que du coup son implantation a asséché tous les terrains, tous les milieux autour de la rivière de l'Allier. Donc il y a un grand enjeu aussi pédagogique de sensibilisation du territoire sur qu'est-ce que l'Imagrin. Qu'est-ce que ça engendre, en fait, son implantation sur notre territoire. Et ça, c'est vraiment un travail important parce que l'Imagrin est implanté depuis longtemps, au même titre que chez nous, que Michelin et que Volvic. C'est des multinationales très connues qui ont un gros bassin d'emploi sur notre territoire. Et donc, il y a tout un travail pour parler de ce sujet-là.
Et puis sur notre travail d'investigation par rapport à l'Imagrin, il y a aussi un travail de sensibilisation. On vous a parlé que voilà, cette rando, elle était là pour expliquer aux gens. Effectivement, il y a la question de l'eau, des méga-bassines, mais pourquoi est-ce qu'on arrive là? C'est-à-dire que la plaine de la Limagne, nous, là où est implanté l'Imagrin dans notre territoire, c'était des zones très fertiles, des terres en fait avec énormément de capacités de production et des zones humides. Et donc ces zones-là ont été utilisés pour faire de la culture, et avec le développement de l'agro-industrie et de l'Imagrin, ces terres, en fait, ont été complètement asséchées, en fait, et sont devenues... Les zones humides ont été asséchées pour pouvoir faire de la culture à des endroits qui n'étaient pas faits pour, et les terrains qui étaient très fertiles, maintenant, du coup, à cause de tas de raisons de pas faire tourner les semences, d'être toujours sur la même espèce, maintenant, on est obligé d'amener des intrants pour permettre en fait aux aliments de pousser, alors qu'on est avant on était quand même sur une terre très fertile. Donc ça, c'est des choses qu'il faut remettre dans un contexte et qu'il faut expliquer aux gens, leur expliquer pourquoi est-ce qu'on en arrive en fait, alors que cette terre-là à la base nous nourrissait, pourquoi est-ce que maintenant on en arrive à devoir assécher notre rivière qui nous permet de nous hydrater pour arroser en fait des cultures sur des zones qu'on a drainées de base.
En même temps, c'est un employeur, donc ça doit rendre compliqué. Aussi, j'imagine. Enfin, il y a pas mal de gens qui dépendent. de l'Imagrain pour leur revenu?
Oui, et c'est ce que je disais. L'Imagrain emploie beaucoup de personnes sur le territoire, donc potentiellement, tout le monde a une connaissance qui travaille pour l'Imagrain. Donc c'est tout l'enjeu du sujet. C'est pour ça que c'est aussi délicat de pouvoir en parler. Mais après, il y a aussi, dans notre travail, il y a cette sensibilisation autour de l'eau bien commun. Et ça, c'est hyper important pour nous parce que la rivière de l'Allier, elle fournit en eau potable quand même beaucoup de communes. Et là, avec toutes les sécheresses de ces dernières années et celles qui arrivent cette année, on sait que encore plein de communes vont devoir être approvisionnées avec des camions-citernes. Donc l'enjeu de l'eau, il est bien là. Il va être de plus en plus visible aussi parce que il faut voir que quand on va ouvrir notre robinet, à un moment, on va plus avoir d'eau. Et je pense que ça va vraiment permettre aux gens de se mobiliser aussi, parce que l'eau, c'est quand même, c'est un peu l'or bleu.
Merci à vous tous. Donc cette interlude, comme d'habitude, c'est vraiment fait partie maintenant des soulèvements de terre très importants. C'est la question des méga-bassines. C'est une longue histoire, beaucoup d'actions, beaucoup de mobilisations, très spectaculaires, de plus en plus d'ailleurs. Et de nouveau, ça fait partie de saison 7, donc les prochains 6 mois en gros. Donc est-ce que tu peux me d'abord rapidement rappeler qu'est-ce que c'est BNM, Bassine Non Merci? De quoi il s'agit et après on viendra à ce qui est prévu cette année.
Alors bonjour, BNM c'est un collectif qui rassemble des habitants, des associations, des représentants syndicaux, des militants associatifs, qui est né en 2018 dans les Deux-Sèvres pour s'opposer au projet de méga-bassine, aux 16 projets de méga-bassine dans les Deux-Sèvres. Et c'est un collectif qui ensuite s'est multiplié dans les départements voisins, sur le bassin Homme-Couture, en Charente, dans la Vienne, où il y a aussi des projets, de nombreux projets de bassines. Et aujourd'hui, depuis maintenant 2-3 ans, les BNM, les types collectifs de les BNM se multiplient encore plus loin. Il y en a un dans le Finistère, dans le Berry, et plus récemment autour des projets de bassines, des gigabassines de l'Imagrain, dans le Puy-de-Dôme.
Rappel rapide de à quoi ces méga-bassines doivent servir et un peu le modèle d'où vient l'eau, enfin, etc.
Les projets de méga-bassines, ils répondent à un problème de gestion quantitative de l'eau. Les projets de méga-bassines sont nés dans les territoires où on constatait qu'il y avait un déséquilibre chronique entre la ressource d'eau disponible et les prélèvements. Et pour essayer de rétablir l'état, le bon état des eaux dans ces territoires, l'État a mis en place des programmes d'action pour essayer de répondre à ce problème de déséquilibre. Et dans les territoires où nous, des Deux-Sèvres et du Poitou, qui sont des territoires où il y a une forte économie agricole, il a été rapidement envisagé de trouver des solutions pour dans le cadre de l'agriculture, qui sont les principaux consommateurs en eau de ce territoire. Et les principales forces agricoles, notamment la FNSEA, s'est très rapidement positionnée et a porté des projets de stockage d'eau en disant que c'était des projets qui devaient répondre à ce problème de déséquilibre chronique, mais qui en réalité sont des projets pour perpétuer et pour préserver leur volume et pour continuer à irriguer massivement des cultures très gourmandes en eau à des moments où il y en a le moins. Et on pense essentiellement au maïs. Voilà, donc les projets de méga-bassines, ils sont nés dans un cadre de gestion quantitative de l'eau, mais qui ne font en fait rien résoudre du tout. Ils vont simplement permettre aux gros accapareurs du monde agro-industriel de continuer à préserver leur volume d'eau pour irriguer des cultures qui sont inadaptées aujourd'hui à notre territoire et à l'évolution climatique.
Et c'est différent par rapport à ce qui pourrait se passer dans le Puy-de-Dôme avec les gigabassines qui seraient alimentées par l'Allier, qui est une rivière. Chez vous, c'est la nappe.
Alors chez nous, les méga-bassines, c'est essentiellement en nappe. C'est plus de 80% de prélèvements en nappe pour remplir des méga-bassines qui vont de 3 à plus de 16 hectares d'emprise au sol. On voit aujourd'hui un tournant. Je pense qu'avec le rapport de force qu'on a su imposer et tout le travail d'information qu'on a fait auprès du grand public et auprès des élus, il y a un tournant et on voit un changement de stratégie de la part des porteurs de projets de bassines qui progressivement abandonnent ou s'investissent moins dans le portage des projets de méga-bassines et s'orientent plus vers des bassines de plus petite taille, sont moins demandeurs d'arrêtés ou d'enquêtes préalables. Et donc là, récemment, le préfet de la Vienne, par exemple, a annoncé le lancement de 10 mini-bassines, qui font quand même plusieurs hectares, et qui seraient remplies par pompage dans les rivières, ce à quoi on a répondu que c'était quand même une forme de privatisation de l'eau, et que un des problèmes, c'est que si c'est un modèle qui est généralisé pour l'ensemble des paysans et des paysannes ou des agriculteurs, ça pouvait pas se passer d'études d'impact sur des pompages cumulés sur un cours d'eau, sur l'ensemble du bassin hydrographique, entre là où il y a le pompage et l'estuaire, et que puisqu'ils veulent contourner l'ensemble du débat démocratique, les études scientifiques, que c'était un gros problème, et que du coup, sans doute ces bassines de moins grande taille poserait tout aussi problème, même s'ils n'étaient pas remplis par des pompages en nappe comme pour les méga-bassines.
Il faut aussi dire qu'il y a une sorte de, je sais pas comment on peut dire, une sorte de bataille d'études scientifiques, mais il y a eu récemment des études scientifiques d'hydrologues qui montrent que les études qui étaient utilisées pour justifier les méga-bassines étaient carrément fausses ou que ne prenaient pas en compte toutes les questions, par exemple, climatiques.
Oui, c'est notamment le rapport du BRGM, du Bureau d'études géologiques et miniers, dont le siège qui a mené ses études est basé à Orléans, qui avait mené une étude d'impact des bassines, notamment pour les Deux-Sèvres, mais qui avait pas pris en compte l'évolution climatique. Et c'est ce qu'a pointé du doigt Anne Morwen-Passier dans sa contre-expertise, qui a bien mis ça en évidence sur le fait que du coup, c'était une étude qui était incomplète et dont même la méthode était à re-questionner. Donc ça a clairement fait s'effondrer toute une part de la crédibilité scientifique qui justifiait la mise en place des bassines et justifiait le fait que ça pouvait vraiment répondre à ce besoin de restaurer le bon état des eaux sur nos territoires. Clairement, les bassines ne répondent pas à cette urgence qui est de réparer, restaurer, retrouver un bon état des eaux sur nos territoires, alors qu'il en faudrait vraiment le faire, aussi bien d'un point de vue quantitatif que le qualitatif, parce qu'aujourd'hui, sur nos territoires, il y a un gros problème aussi de pesticides. C'est pas juste une histoire d'accaparement, c'est aussi une histoire de qualité de l'eau.
Alors, votre campagne contre les méga-bassines a l'air de marquer des points, parce qu'il y a un certain nombre de méga-bassines qui ont été suspendues ou même annulées, ou je sais pas quoi, je crois dans le Vienne, ou je sais pas, une quinzaine, quelque chose comme ça. Donc, les mobilisations de cette année, on va venir maintenant là-dessus, mais c'est très important de maintenir ça, parce que c'est un peu peut-être un moment charnière, mais en tout cas, vous marquez vraiment des points.
Oui, je pense que, certes, ils ont commencé, ils ont réalisé un projet à Mauzé-sur-le-Mignon, ils ont commencé trois autres chantiers, dont celui de Sainte-Soline, à Prières, et là, tout récemment, à Épane. Donc, il y a, sur les 6 projets financés par l'Agence de l'eau, sur les 16 projets d'ensemble sur les Deux-Sèvres, il y en a 4 qui ont commencé, à chaque fois en passant en force, avec des gros moyens de gendarmerie pour protéger les chantiers. On voit que la classe des accapareurs, avec la FNSEA, a clairement profité du mouvement agricole pour essayer de faire valoir ses revendications, faire croire que l'ensemble de la profession agricole voulait de ces bassines, alors que c'est pas le cas, c'est pas vrai. Mais on voit bien qu'on a réussi à vraiment imposer un rapport de force autour de ce sujet de l'accaparement de l'eau. Et par ailleurs, ce qu'on constate aussi, c'est que certes, ils ont commencé ces 4 chantiers, mais dans la Vienne, il y avait 41 chantiers, maintenant il y en a plus que 30. Il n'y a plus que 30 projets. Sur ces 30 projets, il y en a 6 qui ont été annulés par le tribunal administratif de Poitiers, ce à quoi le préfet de la Vienne a fait tout de suite appel auprès du tribunal administratif de Bordeaux. Et il y a 9 projets sur la Charente et Sud de Sèvres qui ont également été abandonnés et auxquels il y a aussi un recours par les irrigants au tribunal administratif de Poitiers. Donc on voit bien qu'il y a un gros rapport de force qui est créé, qui a été imposé par notre mouvement autour de ce sujet-là, parce que ça répond à une vraie problématique locale. Chez nous, c'est très palpable, la question de l'accaparement, enfin de la disponibilité de l'eau potable et de la ressource en eau. Et donc ça touche les gens jusqu'à dans les cités judiciaires, jusque dans chez les magistrats, qui sont en fait devenus assez sensibles aussi à ce sujet-là.
Venons-en à ce qui est prévu. Donc déjà, on arrive bientôt à l'anniversaire de cette très très grande mobilisation. On ne va pas trop répéter, je pense que c'est relativement connu, mais les 30 000 personnes qui se sont réunies en mars donc 2023, et qui a beaucoup marqué parce qu'il y avait une répression absolument brutale et, je pense, inattendue à ce point-là, quoi, mais qui a traumatisé, je pense même, en tout cas bousculé beaucoup de gens. Mais là, on arrive un an après, donc j'imagine que vous avez envie de un peu rappeler cette date. Donc, et au-delà, vous avez aussi d'autres dates, d'autres actions à proposer dans cette septième saison des soulèvements.
C'est sûr que là, on arrive en mars. Ça va faire un an qu'on a vécu cette grande mobilisation de Sainte-Soline et Mel, qui était marquante pour beaucoup de personnes. Tous et toutes étaient, je pense, choqués par le niveau de violence de l'État pour défendre un trou, un cratère vide. On a vraiment pris le temps d'essayer de comprendre ce qui s'était passé et de prendre acte aussi de cette violence d'État qu'ils étaient prêts à déployer pour défendre ces projets. Il y a des gens qui ont été blessés, mutilés à vie. On prend encore le temps d'accompagner ces blessés. Ça nous tient à cœur, là, pour les un an, de marquer quelque chose par rapport à ça. Donc, le 23 mars prochain, on va faire une journée qu'on appelait commémoration action. À la fois, le matin, il y aura un moment où on propose de construire un cairn pour en souvenir, pour marquer un monument, pour marquer de manière solennelle notre la mémoire de ce qui s'est passé l'année dernière, pour montrer aussi l'après-midi que, certes, cette violence préméditée de l'État pour nous briser, pour traumatiser le mouvement, n'a pas fonctionné. Elle a certes blessé et traumatisé des militants, des personnes, des habitants du territoire, mais elle n'a pas traumatisé notre mouvement, et que notre mouvement, il va continuer à mener le combat contre l'accaparement de l'eau et ses projets de bassines. Et que une des manières aussi de se soigner, c'est de tourner, de trouver de la joie, de retrouver de la force en tournant en dérision leur violence. Et donc c'est pour ça que l'après-midi, on ira faire un tournoi de pétanque devant la gendarmerie, qui est massivement confisquée des boules de pétanque pendant cette mobilisation-là, au prétexte que c'était des armes par destination. Et donc on invite les gens à rejoindre cette MEL le 23 mars. Le 25 mars, qui sera vraiment la date jour pour jour de ce qui s'est passé l'année dernière, on appelle à des rassemblements partout en France, à ce que chaque comité soulèvement de la terre, chaque collectif qui le souhaite, appelle à un rassemblement devant préfecture, gendarmerie, pour rappeler ce qui s'est passé l'année dernière, et sous la forme d'une soirée méga boom boom, pour rappeler les 5000 détonations qu'on a entendues l'année dernière à Sainte-Soline, là, cette fois, de les faire résonner devant les préfectures et gendarmeries pour de manière ludique, certes, mais aussi pour quand même leur rappeler ce que c'est que d'entendre 5000 détonations.
Le 22 mars, c'est la journée de l'eau mondiale, je crois.
Le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau, oui, je ne l'ai pas évoqué. Il y aura des différentes initiatives locales menées par des associations, notamment l'API, qui est une association historique d'information sur l'eau dans les Deux-Sèvres, et qui fera une projection ce jour-là, à Mel, et il y aura aussi d'autres initiatives, notamment à Poitiers, par les associations environnementales, Alternativa. Donc le 25 mars, il y aura ces on lance cet appel à mobilisation devant préfecture et gendarmerie, et le 31 mars, ça sera une journée dédiée à la mémoire et à des discussions sur la filière agricole et la présentation d'un certain nombre de films et de livres qui retracent un peu ce qui s'est passé l'année dernière.
Après, il y a toute une série d'actions en juillet.
Voilà, Et donc les un an, c'est pour marquer ça, pour marquer la mémoire et pour montrer qu'on est encore déterminé, qu'on va poursuivre le combat et qu'on va le gagner, ce combat. Et une des étapes pour aller vers le fait de repousser cet accaparement de l'eau, c'est la mobilisation qu'on appelle en juillet. Pourquoi en juillet ? Parce que le 26 juillet, Macron et ses amis vont parader sur la Seine pour l'ouverture des Jeux Olympiques, qu'ils ont mis beaucoup d'énergie pour dépolluer la Seine pour cette grande parade, et que nous, ça nous semble complètement obscène, vu la qualité de l'eau et le manque de moyens qui sont déployés sur notre territoire. Et donc on tenait à le rappeler, juste avant l'ouverture des Jeux Olympiques, ce que nous on vit sur le territoire. Et donc on appelle à une grande mobilisation du 14 au 21 juillet, dans le Poitou, pour percer l'opacité de la filière agricole et de la gestion non démocratique de l'eau sur ce territoire, pour progressivement faire éveiller, émerger une conscience de bassin versant. Et donc cette grande mobilisation, on espère qu'elle va être déterminée et joyeuse. On va clairement tirer les leçons de ce qui s'est passé lors des mobilisations précédentes. On va faire du mieux qu'on peut. On sait qu'on va rencontrer de l'adversité. On sait que ça va être un moment important de la mobilisation. Et donc, ce qu'on a imaginé, c'est une mobilisation à plusieurs dimensions. On imagine qu'il y aura... on est en train de préparer quelque chose qui est de l'ordre de convois à l'échelle du Poitou, qui vont arpenter les différents bassins versants du Poitou, tout en cartographiant à travers un certain nombre de gestes la filière agro-industrielle qui est corrélée aux infrastructures de bassines. On imagine que ces convois vont se rassembler à un moment donné avec d'autres gens, et on appelle à converger massivement dans un grand village de l'eau à partir du 18 juillet. Le lieu n'est pas encore connu, mais il sera révélé en temps voulu. Et sur ce village de l'eau, on imagine, on est en train de préparer des conférences, des tables rondes, des temps de formation avec des délégations internationales pour parler d'accaparement de l'eau, d'accès à l'eau potable, de barrages, de bassines, le rapport entre nos luttes écologistes, paysannes et aujourd'hui la montée de l'extrême droite. Qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui? Et donc ça va être tout ça. Et évidemment, on appelle massivement les gens à converger de partout en France sous la forme de convois pour se réunir le week-end du 19-20-21 juillet. On souhaite qu'il y ait une grande manif action fleuve qui puisse inonder le Poitou, voilà, pour désarmer ces gros projets d'accaparement de l'eau.
Parfait. Est-ce que tu veux rajouter autre chose?
Venez nombreux.
Pour conclure cette émission, nous allons encore évoquer une lutte très importante contre la ligne de grande vitesse Lyon-Turin. Nous allons écouter Lou de côté de la Val de Susa en Italie et Philippe côté Maurienne. Rappelons qu'il y avait une grande action contre ce projet Lyon-Turin les 17 et 18 juin 2023. Ben bonjour, ça fait, je pense, exactement un an. Nous nous sommes vus dans une interlude des soulèvements de terre, c'était à Notre-Dame-des-Landes, je crois. Et on a déjà évoqué, évidemment, le NOTAV, enfin le projet Lyon-Turin. Et il y a eu de l'action, vous peut-être me parlez de ça, mais depuis, on entend surtout beaucoup parler que ça avancerait ce projet. On en parle beaucoup de Monsieur Vauquier qui annonce qu'il va soutenir ce projet, enfin, etc. Donc j'aimerais bien sentir comment des deux côtés vous sentez la situation maintenant depuis l'action et puis c'est 6 mois depuis à peu près. Peut-être côté italien.
Bonjour. Côté italien, je peux un peu raconter ce qui nous a donné cet événement de l'autre côté des Alpes, parce qu'en fait c'était la première fois que c'était une journée internationale pour les NOTAV et c'était très important pour nous. En fait c'était un gros signal pour dire qu'en fait c'est pas que la côté foule des NOTAV qui a décidé qu'il est contre cette ouvre, mais en fait on a envoyé vraiment un message qu'il y a aussi la côté française qui veut pas cette ouvre, qu'en fait on est unis, et du coup même si je pense que tout le monde avoue qu'il y avait pas mal de bus qui étaient bloqués à la frontière, même si c'était comme ça, en fait on a réussi à avoir une journée de lutte international, parce que quand même de côté notable, on a eu l'énergie, voyant qu'est-ce qui s'est passé à Maurienne, de quand même de la même journée de rentrer chez nous et de faire quelque chose autour de notre chantier. Et du coup, on a amené, on fait une action simultanée. Et c'était, en fait, c'était bien de voir qu'on peut faire des choses ensemble, et même s'il y a des impasses, parce que en fait, même s'ils essaient de nous arrêter, en fait, notre énergie se multiplie. En fait, c'est un peu ça. Et du coup, bah, on avoue aussi qu'il y avait pas mal de répression aussi. Du coup, que ça fait vraiment peur pour notre ennemi s'il y a une convergence de luttes. Et du coup, c'est aussi sur ça qu'on a compris que c'est bien de continuer à le faire, parce que on avoue, avec toutes les interdictions en territoire qu'il y avait eu pour la manifestation, qu'en fait, c'est vraiment dangereux pour eux si nous, on est ensemble. Du coup, ça, c'est notre fort puissance pour nous.
Alors, côté français, ce que ça vous a apporté d'avoir fait cette grande journée, c'est peut-être la plus grande journée organisée encore jusqu'à présent, depuis, je sais pas, 20-30 ans dans la Maurienne, et un peu comment tu sens la chose depuis?
Alors moi, je crois qu'en fait cette manifestation était très importante pour nous, côté français, parce qu'elle a rendu visible cette lutte, et elle a rendu visible que ce projet Lyon-Turin, en fait, elle n'était pas si unanime que cela, comme le disent les promoteurs. Et en fait, réunir 5000 personnes, c'est vrai, en Maurienne, a été assez exceptionnel. Ça a donné un élan énorme face à cette lutte, puisque depuis, de nombreux collectifs contre le Lyon-Turin se sont créés un petit peu partout, pas seulement en Maurienne, mais également en-delà de la Maurienne, sur tout le tracé, en fait, de l'éventuelle future ligne jusqu'à Lyon. Et une douzaine, entre 12 et 15 collectifs contre le Lyon-Turin, des CCLT, comme on dit, eh bien, se sont formés. Et aujourd'hui, on est en train de faire des inter-CCLT. Donc on se rend compte pour faire que la lutte soit beaucoup plus forte et un petit peu partout. Et comme le disait Lou, eh bien la lutte s'est vraiment internationalisée, puisque désormais on se rencontre régulièrement avec les Italiens et on essaie évidemment de former des luttes communes pour montrer aussi aux gens qui pensent que parce qu'il y a des travaux préparatoires, alors c'est illusoire de se battre contre ce projet. Et en fait, il est tout à fait possible, aujourd'hui, on veut le démontrer, il est tout à fait possible de stopper ce projet. Parce qu'encore une fois, il y a tant de milliards nécessaires ailleurs que dans ce genre de projet. Je donne juste un exemple. Le département de la Savoie, qui gère les collèges, eh bien, a donné 3 millions d'euros pour faire l'étude des accès au tunnel de base du Lyon-Turin. Pendant ce temps-là, dans un collège à Modane, les enfants, depuis plus de 30 ans que ce collège est construit, eh bien, ont froid dans les couloirs du collège. Et rien n'a été fait pour améliorer cette situation. Donc, je crois qu'on a besoin de choses utiles aujourd'hui pour que les gens vivent mieux, plutôt que de projets de cette envergure qui vont apporter des nuisances graves, en fait, non seulement à l'environnement, mais aussi au bien-être des populations des deux vallées.
Alors, comme je disais un peu avant, en fait, on a l'impression, en tout cas en France, en Italie, je ne sais pas, mais qu'il y a vraiment une propagande médiatique. Je vois souvent des photos avec des grandes machines qui sont en train de faire les tunnels. Vraiment, pour créer cette ambiance de fait accompli et que, voilà, que ça avance. Est-ce que c'est aussi comme ça en Italie que, côté autorités, mais aussi médias, on essaye de faire semblant que, en fait, il y a quasiment plus d'opposition et que ça avance, c'est tout parfait, quoi.
Ah oui, c'est clairement comme ça. On a eu la visite de notre ministre des Transports, Salvini, il y a un mois et demi, quelque chose comme ça, justement, un prétexte pour faire voir qu'en fait, il y a tout l'intérêt du gouvernement pour avancer avec les travaux, même si en fait, c'est même pas légal parce qu'ils ont pas même fini les tunnels géologiques chez nous. Parce que la température a été trop haute pour les humains pour y travailler. Du coup, c'est même pas légal de finir la première partie de premier tunnel géologique, que c'est même pas le tunnel de base. Du coup, en fait, c'est vraiment de la propagande pour, nous, on croit que c'est plutôt pour convaincre aussi l'Union européenne et tous les autres qui, en fait, même les entreprises qui s'engagent là-dedans, pour dire qu'en fait, on les soutient parce que, notamment, c'est pour la politique qu'on amène ces projets. Et du coup, c'est aussi pour recevoir l'argent. Et c'est tout des tactiques un peu gênant pour faire voir qu'en fait c'est, ça va, qu'on avance, mais en fait on rappelle que même pas mettre et construire de vrais tunnels de base en Italie encore.
Français, je veux dire, là, on a l'impression, comme je dis, que ouais, ça avance et tout, mais en fait, quelle proportion, quel pourcentage on pourrait dire a été fait, ou enfin, qu'est-ce qui reste à faire? Parce qu'on n'a pas encore, pour nos auditrices et auditeurs qui connaissent peut-être pas tout, qu'est-ce qui reste à faire? Je veux dire, c'est des tunnels tellement énormes et longs, mais il faut peut-être se rappeler qu'est-ce qui reste à faire encore.
Il reste déjà le tunnel de base à faire, c'est-à-dire 2 fois 57 kilomètres. Il y a, comme disait Lou, les tunnels de reconnaissance ou géonostiques qui ont été faits, mais c'est tout. Il y a à peu près 400 mètres de tunnels qui ont été creusés à l'explosif vers Saint-Jean-de-Maurienne, mais c'est tout. Et il reste aussi tous les accès, c'est-à-dire en fait 5 autres tunnels à faire. Donc c'est des chantiers colossaux, et moi j'ai l'habitude de dire que, ne serait-ce qu'avec le tunnel de base, s'il se faisait, si l'argent nécessaire était donné pour faire ce tunnel de base, eh bien, TELT, tunnel Euralpin Lyon-Turin, le promoteur du projet, nous condamne à 20 ans de travaux forcés. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant 20 ans, on va subir en fait des désagréments avec des camions, de la poussière, avec du bruit, et aussi avec une perte écologique fondamentale, qui est la perte de l'eau. Et ça, je crois que c'est là-dessus qu'il faut absolument qu'on mette l'accent, parce que l'eau, c'est encore une fois tout ce qui permet la vie. Et c'est pas seulement la vie des humains, mais c'est la vie aussi de tous les autres êtres vivants de la vallée, les forêts, les prairies, mais aussi les animaux domestiques comme les animaux sauvages. Donc en fait, c'est un enjeu en fait bien plus important que simplement de creuser un tunnel. C'est un enjeu en fait d'une autre société. Qu'est-ce que l'on veut? Est-ce que l'on veut un tunnel avec une nouvelle ligne qui va faire transiter des marchandises du monde entier? Ou est-ce que l'on veut une société qui relocalise les biens, la fabrication des biens, l'agriculture? On veut une souveraineté alimentaire. C'est pas avec ce genre de tunnel qu'on va y accéder, puisqu'on va perdre des terres agricoles. Donc je crois que c'est un tout autre enjeu, évidemment, que simplement de creuser un tunnel.
Une nouvelle ligne à côté d'une ligne existante qui pourrait servir, en plus, je veux dire, pour le transport de marchandises.
Exactement, le Lyon-Turin existe déjà. Utilisons-le, et la meilleure preuve qu'on a délaissé cette ligne existante pour faire croire que ce deuxième Lyon-Turin était nécessaire, eh bien, il y a malheureusement eu un éboulement de la montagne qui a coupé à la fois la ligne de chemin de fer et puis la route départementale. Eh bien, si les travaux avaient été faits déjà en 2018, comme il y avait déjà eu un petit éboulement, mais la ligne ferroviaire n'avait pas été endommagée, si les travaux nécessaires avaient été faits, on n'aurait pas ce problème-là. Donc c'est-à-dire que celles et ceux qui gèrent cette ligne existante, en fait, font tout pour prouver qu'elle est obsolète, alors qu'elle a été mise au gabarit européen, il y a eu d'énormes travaux qui ont été faits pour plus d'un milliard d'euros. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'autre chose, puisque le fret ferroviaire n'augmente pas, voire diminue. Donc on n'a pas besoin d'une nouvelle ligne. Utilisons celle qui existe et puis optimisons-la à la rigueur.
Alors ici, on est dans l'interlude où on fait le bilan et aussi les perspectives quoi pour les prochaines saisons, notamment le 7 et ensuite le 8. Alors est-ce que vous avez déjà quelque chose à annoncer et qu'est-ce qui est prévu, peut-être de côté ou l'autre, ou peut-être ensemble?
Bah, on est en train de réfléchir sur une date, mais on a pensé plutôt à quelque chose qui est fait dans les deux côtés en même temps, et aussi de faire une campagne pour arriver à cette date-là. sur un des enjeux qui, en fait, c'est plus important pour nous de souligner maintenant, que ce soit le flux de couteaux, les camions qui passent pour faire les travaux qui continuent à polluer notre vallée, que c'est déjà quelque chose qui est vraiment incroyable, les nombres des passages dans la vallée, dans les deux vallées, soit sur la valorisation de la ligne existante, hein, qui disait tout à l'heure Philippe, parce qu'ils ont déjà fait une action voilà, à Modane, et nous, on pense que c'est quand même bien de le surligner la même chose chez nous, dans des gares comme Bardonecchia, qui risque d'être, de disparaître, en fait, pour, à cause de Lyon-Turin. Et du coup, voilà, de commencer vers une campagne conjointe, et après, faire une date. Et on pense en juin, mais voilà, on se tient au courant parce que, on n'a pas encore la date, mais on va réfléchir pour l'amener ensemble.
Et Philippe, tu vois quelque chose ?
Alors, moi j'aimerais dire pourquoi est-ce que c'est difficile de se battre ensemble, soit en Italie, soit en France. C'est parce que les deux gouvernements, français et italien, nous empêchent en fait de passer. C'est-à-dire que nous sommes dans l'espace Schengen, où les citoyens européens que nous sommes doivent pouvoir transiter tranquillement entre les deux pays. Eh bien, ce n'est plus le cas. Puisque le 17-18 juin, par exemple, comme l'a dit Lou, des cars italiens ont été empêchés de franchir la frontière. Et c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas ou difficilement faire des actions communes, ou alors ce serait que des petites actions communes. C'est pour ça qu'on a choisi finalement de faire des actions plutôt simultanées, mais de chacun de nos côtés. Par exemple, on pourrait très bien imaginer, comme on l'a fait nous, une manifestation devant la gare de Modane, et en même temps, une manifestation devant la gare de Bardonecchia, qui est à 14 kilomètres de l'autre côté du tunnel ferroviaire, qui existe déjà et qui est en très bon état. Voilà. Donc en fait, il y a plein de choses comme ça qui pourraient être imaginées. Il y en a d'autres, évidemment, dont on ne peut pas parler dans un micro. Mais il y a beaucoup de choses qui sont envisageables et envisagées. Voilà.
Très bien. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
Je peux ajouter qu'en fait, comme chaque année... Dans la vallée, il y a le festival Alta Felicità, qui est le dernier week-end de juillet.
Tu le dis très rapidement pour les Français, Alta Felicità, donc, parce que c'est Alta Velocità, qui est la grande vitesse.
Ah oui, je précise, justement, tu as raison. Alta Felicità, ça vient de Alta Velocità, parce que, qu'est-ce que ça veut dire? TAV, treno, Alta Velocità, train, haute vitesse. Et du coup, nous, on répond à cette ouvre terrible avec un festival de musique, de fêtes, de aussi actions, qui s'appelle Alta Felicità, haute félicité.
Bonheur, oui.
Haute bonheur, voilà. Et du coup, pour tout le monde qui veut venir visiter la vallée, voilà, nous on est là, ça sera un bon week-end de fête à passer ensemble, voilà. C'est le dernier week-end de juillet.
Super, merci. C'était Gare aux gigabassines et aux tunnels inutiles, la 7e émission dans la série Quand la Terre se soulève, réalisée par Radio Zinzine. Si vous voulez réécouter ou télécharger cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site de Radio Zinzine qui est www.radiozinzine.org. Les musiques qui accompagnent cette émission sont du groupe belge ACDP. À consommer de préférence.